Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Souhaitons la bienvenue aussi à Claire Fercac, avec qui j'ai la joie de m'entretenir aujourd'hui.
Bonjour.
Claire Fercac, vous êtes essayiste et romancière, autrice d'un magnifique essai sur les conséquences des orages intitulé « Après la foudre », pour lequel j'avais eu la chance de vous recevoir à ce micro. Vous êtes autrice de romans parus aux éditions Verticales, comme « Histoire naturelle de l'oubli » ou « Le déchirant, ce qui est nommé reste en vie ». Et cet hiver, vous nous revenez avec un nouveau roman, toujours aux éditions Verticales, intitulé « Une existence sans précédent ». Bonjour Claire Fercac.
Bonjour Mathias.
Claire Fercac, une existence sans précédent, ce sont plusieurs voyages, les uns dans les autres. Le premier, en tout cas le plus apparent, c'est celui qu'accomplit Elena Servac, la narratrice. Voyage qu'elle nous raconte à la première personne et qui commence par ces mots « Je suis habitée par un cri ». Alors qu'elle se trouve dans un hôtel, que contrairement à son habitude, elle ne dort pas dans sa voiture. Claire Fercac, est-ce que c'est par cette phrase qu'a commencé le livre pour vous, comme pour Elena Servac, par ce cri?
Ce livre, il a commencé dans ma tête, je dirais, en 2014. Donc il y a quand même un certain nombre d'années quand j'ai moi-même fait ce voyage. Et j'ai mis beaucoup de temps, alors entre-temps j'ai écrit d'autres livres, à trouver la façon d'écrire ce livre, qui serait une façon éloignée pour moi de raconter cette histoire d'une façon qui ne serait pas celle que j'ai vécue.
Donc le propos, si j'ai bien compris, c'était de vous éloigner de ce que vous aviez pu vivre pour passer justement dans le domaine du roman et de la fiction.
Oui, en réalité, quand j'ai fait ce voyage à la recherche des Fercac, mais moi je savais où ils étaient et j'avais des adresses pour les trouver, je pensais effectivement écrire un livre des origines, mais mon esprit romanesque m'a joué des tours et ce que j'ai trouvé était plutôt normal, banal et n'a donné lieu à aucun livre. Mais je me suis dit que je pouvais trouver un autre moyen de faire cette traversée, cette quête des origines. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette narratrice et le fait d'avoir trouvé sa voix. Et effectivement, cette première phrase a été pour moi une des premières phrases de l'écriture et je l'ai gardée.
Alors qu'est-ce que c'est que ce cri, Claire Fercac?
Qu'est-ce que c'est que ce cri? Donc ce cri qu'elle animalise et qu'elle voit comme un animal parce que ça, elle aime jouer avec les choses et que ça l'arrange bien parce qu'avoir un animal, ça veut dire ne pas être totalement seule, ça veut dire aussi devoir essayer d'amadouer quelque chose en soi, mais ça veut dire aussi pouvoir lâcher la bête intérieure. Cet animal, c'est tout ce qui lui pèse et donc c'est plutôt son passé, tout ce qui la met en colère et donc c'est cette colère qui l'habite et avec laquelle elle essaie d'avancer.
Alors il faut dire que Elena Servac n'est pas quelqu'un de banal, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, elle a toute une histoire. D'abord, si elle entreprend ce voyage pour retrouver des Servac en Slovénie, c'est parce qu'elle est presque orpheline, on peut le dire. En tout cas, elle vient de perdre sa mère d'accueil, avec qui elle voyage d'ailleurs, puisque elle a mis son urne funéraire dans son coffre. Elle a acheté une voiture, elle a rempli cette voiture de livres et elle est partie.
Tout à fait. Elena se sent orpheline déjà parce que les Servac, ses véritables parents biologiques, sont morts l'année de sa naissance. Elle ne les a pas connus. Elle ne connaît personne qui porte son nom. C'est pour ça qu'elle décide d'aller en Slovénie, ce qu'elle nomme son pays d'origine du nom. Et la scène fondatrice, ou en tout cas qui déclenche ce voyage, c'est le moment où elle perd Nicole, qui est la mère de sa famille d'accueil, qui est sa mère de substitution. Et elle décide de voler l'urne funéraire qui contient ses cendres pour l'emmener avec elle dans cette traversée. Donc elle achète une voiture, elle conduit assez mal puisqu'elle a raté 6 fois son permis de conduire. Mais voilà, elle se dit quand même qu'elle va y aller dans ce pays d'origine du nom.
Alors elle nous apprend, puisque c'est elle qui nous raconte cette histoire, elle nous apprend qu'elle est née en France, de parents slovènes, les Servac. Et puis elle nous donne ses raisons pour entreprendre ce voyage. Je vous cite ces quatre points. 1. Je n'ai jamais voyagé car la stabilité m'est recommandée. 2. J'ai volé l'urne de Nicole dans la maison Jolet. Je suis peut-être dans l'illégalité. 3. Nicole n'a jamais voyagé alors qu'elle en rêvait. 4. Je dois faire quelque chose de fort en hommage à Nicole.
Ça me paraît être quatre raisons tout à fait sensées, même si vous dites qu'elle n'est pas banale. Mais dans sa
c'est
propre logique,
dit, hein. Oui.
Dans sa propre logique, et c'est vrai qu'elle a une vision du monde qui est bien à elle, sa logique, c'est de se dire, je vais aller dans un pays que je ne connais pas, dont je ne parle pas la langue, et peut-être je vais me devenir familière. Donc c'est une logique dont on peut douter, mais c'est la sienne, et comme c'est elle qui raconte l'histoire, il faut bien la suivre.
Oui, mais même, il y a aussi quelque chose peut-être de plus intime, Claire Fercaq, qui est cette relation à la Slovénie, vous l'avez dit, c'est aussi votre pays d'origine du nom. Vous avez vous-même cherché ces Fercaq, comme elle cherche les Servac. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouviez pas ou ne souhaitiez pas raconter cette histoire sous votre propre nom, en fait ?
Alors ça c'est une question que je n'ai peut-être pas encore tout à fait résolue. Moi-même beaucoup de temps à décider d'aller découvrir la Slovénie. Hein. Moi, je suis née en 82, j'y vais pour la première fois en 2014. Vous voyez, c'est quand même assez long. Je découvre assez tard dans mon histoire familiale que mon grand-père est né en Slovénie, qu'il était marié à une Italienne. Je découvre tout ça très tard et on ne m'en dit rien. Et c'est à force de lire des choses sur la Slovénie, sa géographie, sa généalogie, le fait que c'est quand même un pays qui a été démembré pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, à force de m'intéresser à ça, je me dis qu'il faut que j'y aille et que je rencontre les gens de ma famille, donc les Fercaq. Et je sais pas, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais cette histoire personnelle, et moi j'estime que je n'y ai pas trouvé grand-chose en allant sur les lieux, en découvrant la maison de ma grand-mère, mais j'avais besoin de créer un lien avec ce nom que je porte, auquel je suis sans cesse renvoyée. Je veux dire, c'est mon nom, on me demande tout le temps d'où ça vient, donc il a bien fallu que j'essaie moi-même de répondre à cette question. Et donc ce livre, c'est une façon pour moi de créer un premier lien slovène.
Claire Fercaq, c'est peut-être un premier lien slovène, mais en tout cas, dans une existence sans précédent, la Slovénie n'est pas du tout l'objet du livre. Il faut tout de suite détromper les auditeurs et auditrices qui s'y intéresseraient. Ce n'est pas un livre slovène. Si, c'est un livre slovène du nom.
C'est un livre slovène du nom, puisque en plus la narratrice ne va jamais chercher à apprendre cette langue. Au contraire, ce qu'elle va aimer en Slovénie, c'est ne pas être comprise, ne pas parler la langue, sonner chez des gens sans être sûre qu'ils soient de sa famille ou non. Elle cherche quelque chose, mais tout en dérivant sans cesse. Et de fait, elle est aussi, elle a un caractère, elle est un peu mal lunée, on pourrait dire. Elle est assez vacharde avec les personnes qu'elle rencontre et avec la Slovénie elle-même, qui est pourtant un très beau pays. Je ne sais pas si dans le livre, on s'en rend compte, mais en réalité, c'est le cas.
Mais pour Elena Servac, la Slovénie, c'est 60% du territoire sont recouverts de forêts. C'est à peu près tout ce qu'on en sait.
C'est à peu près tout ce qu'on en sait. On sait aussi qu'on traverse la frontière très facilement, qu'on ne nous demande pas nos papiers. Et c'est à peu près tout. On voit des étangs, des espaces assez peu construits, mais elle n'en dit pas plus. Et elle ne cherche pas à en savoir plus. Ce n'est pas sa quête. Elle a cette obsession du nom, de trouver des gens qui portent son nom. Et elle pense que ça va résoudre ce qui est pour elle le mystère de vivre, ce qui est une quête finalement assez illusoire.
Parce qu'il faut dire, Claire Fercaq, que Une existence sans précédent, c'est justement le roman d'Elena se retrouvant ou se reconstruisant bien plus que celui de la Slovénie. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage qui fait son propre voyage aussi à l'intérieur d'elle-même et qui va se transformer au fur et à mesure de cette écriture, de ce récit. C'est se mettre en mots.
Un voyage intérieur aussi, effectivement. Je pense qu'il y a un double sens ou comme un contre-courant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important d'avoir ce bras de fer, c'est-à-dire elle avance, elle traverse la France, l'Italie pour arriver en Slovénie. À la fois, elle est dans cette fuite sans cesse ramenée à ses souvenirs. Et donc, il y a cette lutte permanente entre ce qu'elle essaie de trouver et qui pourrait être quand même assez illusoire, qui est une enfance qui n'existe pas, puisqu'elle ne connaît pas sa famille et qu'on ne rattrape pas une enfance qu'on n'a pas eue. Et sans cesse, sa tête qui réfléchit et qui la ramène dans un passé qu'il a vécu. Donc, il y a ce bras de fer sans cesse. Et je dirais que il y a quand même un moment clé dans le livre, et là on peut rendre hommage à la Slovénie, qui est le moment de son arrivée qui lui permet quand même de trouver, à sa manière évidemment, une sorte d'apaisement, mais qui vient du fait qu'elle se sente libre parce qu'elle ne sent plus les contraintes sociales, les contraintes amicales, les contraintes professionnelles, parce qu'elle est là, elle est seule, elle est libre, personne ne parle sa langue, elle peut dire ce qu'elle veut, si elle insulte les gens, on ne va pas la comprendre, elle peut faire des gestes et s'amuser avec, et c'est dans cette solitude, dans ce pays, qu'elle va trouver, en fait, cette sorte de liberté.
Alors, il faut dire qu'Elena Servac a un rapport très particulier avec le langage, d'une façon générale, et aussi avec la société, de manière plus précise, avec le monde du travail, l'amitié, les relations qu'on peut tisser autour de soi, ce qui en fait un personnage assez fascinant. Et notamment, elle fait un léger angle avec la façon de parler que nous pouvons avoir tous. Elle déplace très légèrement la langue, et ce qui lui donne un ton tout à fait particulier, Claire Ferkac.
Alors, elle, ce rapport au monde, je pense que c'est pas qu'elle est inadaptée, c'est plutôt qu'elle a du mal à comprendre les choses telles qu'elles se passent. Elle les trouve souvent très contraignantes. Elle est très spontanée et très immature. Donc les codes, ce qu'elle appelle elle, les codes de la bienséance, mais qui peuvent aussi être les codes du langage tel qu'on le connaît, la dépassent complètement et elle n'a pas envie de ça. Et elle est quand même assez narquoise, assez joueuse. Et donc dans ce qu'elle préfère, vous dites elle prend des livres dans son coffre, dans ce qu'elle préfère, c'est-à-dire les mots, les livres, parce que c'est aussi quelque chose qu'elle peut contrôler, il y a ce déplacement et le déplacement des mots, en fait, il va aussi avec le déplacement qui la caractérise, c'est-à-dire qu'elle est toujours en dehors des clous, en fait. Elle peut passer du coq à l'âne, jamais elle est vraiment en phase avec le monde tel qu'il se présente à elle.
Oui, mais elle a quand même des relations sociales. Au-delà de ça, c'est son amie qui va revenir tout au long du texte, qui s'appelle Walid, alias Walili. Elle transforme très légèrement son prénom
sans cesse
à chaque fois qu'elle en parle, par exemple. Elle a aussi comme ça des impropriétés, pour le dire un peu comme elle, avec certains mots. Par exemple, elle dit de l'urne funéraille, pas l'urne funéraire. Et elle a comme ça
elle trébuche.
Petits décalages avec le langage tel que vous et moi pouvons l'employer. Et ça lui donne non seulement une personnalité, mais aussi un espèce de rapport au monde. On sent que c'est ça qui l'amène, qui l'a fait avancer, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ce moteur du langage, un peu gauche, qui l'a fait un peu claudiquer aussi dans le monde et l'existence.
À un moment, elle dit, on voit le monde à travers sa langue. Et je pense que ça reflète le livre et sa langue est le moteur du livre. ce livre n'existerait pas sans la langue d'Elena et cette façon de déconstruire les mots, d'en inventer d'autres, de se tromper, parce que parfois, effectivement, elle se trompe, elle trébuche. Alors, elle dit elle-même qu'elle a une maladie qui s'appelle la tachypsychie, qui est une névrose qui existe véritablement et qui fait que le malade qui en souffre peut avoir ou des associations d'idées très rapides ou une langue un peu incohérente, ou passer comme ça du coq à l'âne, ou se tromper dans les mots. Donc, il y a aussi ça qui porte le livre, mais c'est vrai que moi, dans l'écriture, j'ai pu écrire ce livre après avoir trouvé la voix d'Elena qui détermine aussi son caractère, sa façon de voir le monde, sa façon de se comporter aussi avec les gens qui l'accueillent, qui parfois l'accueillent bien, mais elle ne le voit pas, avec des gens dans les hôtels où elle peut quand même très vite s'énerver. Ce mélange de langage qui est un mélange de choses, de livres qu'elle a lus, très savants, mais aussi d'argot, parce qu'elle adore l'argot, elle joue avec les mots, et cette grande immaturité de se dire la langue, je fais ce que je veux avec, et effectivement fondateur de tout ce qui va se passer dans le livre, que ce soit bancal ou non.
Oui, elle dit toujours ma tétère, par exemple, pour dire ma tête, qui est un mot d'argot qu'elle a découvert dans la littérature, parce que c'est pas quelqu'un qui découvre l'argot en parlant avec des gens comme si c'était une langue vivante. Apparemment, elle le découvre beaucoup plus dans les livres, et elle a un rapport finalement au monde qui passe quand même par la médiation de la littérature. À part quelques personnages qui ont compté réellement pour elle, c'est Nicole et puis son mari d'une façon négative, et cet ami par exemple Walid, et puis dans son expérience du travail, ce personnage qui décrit par Elena est absolument fascinant, qui est Béatrice.
Effectivement, son rapport au monde, elle est quand même extrêmement centrée sur elle-même, sur ce qui se passe dans sa tête, donc dans cet éther qui est quand même plein de vie. Il s'y passe plein de choses, mais son rapport social est très faible, très contraint. Peu de gens trouvent grâce à ses yeux, hein, quand même. Elle est assez en colère. Je ne sais plus qui l'autre jour me disait c'est une teigne. Bon, oui, pourquoi pas. Donc tout est fondé là-dessus, et il y a quelques personnes, quelques moments clés qui la font vaciller. Donc Nicole, cette mère d'accueil qui s'occupe d'elle. Walid, qu'elle rencontre dans un centre pour, elle dit ado décomposé, mais en fait, on voit bien que c'est un institut de soins psychiatriques. Et puis, Béatrice, qu'elle nomme la référente des intérims, parce que, de fait, elle a beaucoup de mal à travailler, puisqu'elle a du mal à se soumettre à des contraintes d'horaire, de respect des conventions, de respect d'autrui. Donc elle se retrouve à l'accueil d'un immeuble, et dès que quelqu'un arrive, au lieu de l'accueillir, elle se cache derrière le comptoir. Donc elle a quand même beaucoup de mal avec le monde du travail. Et puis elle rencontre cette femme, Béatrice, qui en fait elle-même est broyée par le monde du travail, et alors qu'elle est censée trouver du travail pour les autres. Et donc, de temps en temps, dans ces brèches, se crée des liens. Elle arrive à créer des liens avec souvent des choses qui sont un peu aussi déplacées, un peu sur le côté, et même à la fin du livre, avec cet animal extrêmement lent.
Alors le livre s'ouvre aussi sur un animal. Le premier animal qu'on rencontre, c'est un hérisson ou un hérisson. On verra qu'on va aussi vers un autre animal à la fin du livre. Il y a une espèce de devenir animal un peu dans le ou en tout cas d'affronter peut-être sa propre animalité, ou en tout cas d'essayer de s'y réfugier peut-être, ou en tout cas de trouver un réel dialogue avec cet aspect animal. Et en tout cas, le hérisson donne lieu à une phrase assez magnifique que je voudrais quand même citer. La galère avec les hérissons, c'est qu'on peut pas tenter le massage cardiaque. Ce qui est très vrai, et qui dit aussi beaucoup du monde d'Elena. C'est-à-dire,
on peut tenter, mais il y a les picots. Donc
ouais, voilà, exactement. Elena est extrêmement attentive, mais en même temps, on a l'impression justement que, quand même, ce qu'elle cherche dans ce voyage, c'est un peu à se débarrasser des humains, c'est-à-dire qu'on lui parle plus, en fait, ou qu'on lui parle une langue qu'elle comprend plus, et qu'elle arrive dans un monde, où il y a des animaux, mais en tout cas, on la laisse vraiment tranquille, en fait.
Totalement. Vous le dites très bien. Elle cherche ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est très en colère par pas mal de traumatismes qu'elle a vécu. Et c'est ça pour elle aussi l'existence sans précédent. Sans précédent, ça veut dire sans passé, sans famille, sans parents, sans géniteurs, sans amis, ce qui voudrait dire en fait sans souffrance. Donc oui, sans humain, là où quand elle voit des animaux, elle se dit toujours que peut-être elle aurait un moyen de les sauver, et à la fois ça lui échappe un peu, donc ça peut être aussi un petit peu commode. Et la fin je vais pas évidemment raconter la fin exactement, mais plus on avance dans l'ouvrage, et plus aussi on comprend que pour elle, sans précédent, c'est ne pas soi-même laisser de précédent, et donc ne pas avoir d'enfants, ne pas créer d'autres humains qui vont eux aussi peut-être provoquer des catastrophes ou des traumatismes humains. En fait, le lien qu'elle a avec le social et l'humain est quand même un lien qui lui pèse, qui pour elle est de l'ordre de la souffrance et de la pression. Et en allant dans cette solitude où elle va trouver un apaisement, dans ce monde dans lequel où elle se dit on ne la comprend pas et elle n'a plus d'efforts à faire pour être comprise, puisque de toute façon, personne ne parle sa langue, on ne lui demande rien, elle peut juste se promener avec ce chien, Misun, le chien le plus lent du monde. Et là, elle trouve une sorte de paix solitaire.
Alors, il faut en venir quand même justement à la Slovénie, parce que on y parvient assez rapidement dans le livre, même si le roman est constitué de beaucoup de flashbacks, et notamment ce village de Baka, qui existe ou pas?
J'ai changé le nom.
D'accord.
Par respect pour les villages slovènes magnifiques que j'ai pu traverser, et j'ai juste changé quelques syllabes.
Alors, ce qui est magnifique dans l'arrivée d'Elena dans ce village, c'est qu'elle arrive, elle sonne à une première porte et elle est extrêmement déçue parce qu'en fait, elle se trompe. Et comme elle ne comprend pas la langue et que personne ne la comprend, bon, il y a un petit moment de malentendu et qui se résout parce qu'elle se rend compte, ah non, c'est pas tout à fait, en tout cas.
Elle sonne chez les Servoques et non chez les Servaques. Ce qui effectivement donne un moment de quiproquo qui la met un petit peu en colère et à la fois qui la triste, mais qui crée des situations aussi un peu drôles. C'est-à-dire que dans cette recherche des Servaques, elle fait une liste complètement aléatoire en les cherchant sur Internet. Elle sonne chez eux, elle se présente. On peut imaginer ce que c'est d'avoir quelqu'un qui sonne comme ça.
Elle montre ses papiers d'identité, elle montre sa carte d'identité avec le nom écrit. Alors, quelque chose que vous lui offrez, quand même, c'est l'orthographe de son nom. Et ça aussi, c'est extrêmement important, j'ai l'impression, pour elle. Retrouver cette hirondelle, hein, sur le C d'Elena, non plus Servac, mais Tchervac.
Ouais, elle comprend que toute sa vie, elle s'est trompée.
Exactement.
En fait, on dit Tchervac et qu'on lui avait enlevé son tonique, comme elle dit, sur le premier C. Ça, c'est une découverte qui lui plaît. Cette nomination, et comme les mots sont très importants pour elle, c'est aussi une sorte de réconfort, et plusieurs petites choses finalement vont quand même lui plaire. C'est-à-dire qu'elle va rencontrer quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, elle va découvrir qu'un vin porte son nom, donc ça pour elle c'est quand même quelque chose de magique.
Et puis elle va être extrêmement bien traitée quand même par ces Tchervaks qu'elle rencontre au fur et à mesure du voyage.
Ça je suis assez d'accord, ça c'était assez important pour moi de me dire, on peut aussi poser la question de l'accueil. Il y a quand même une famille qui finit par dire tout de suite, il l'installe, il lui pose très peu de questions, il lui donne à manger alors qu'elle est là, elle fait rien, elle aide pas vraiment, elle est dans sa chambre, parfois elle mange sur le lit, elle se comporte pas très bien, mais eux ils sont là, ils l'accueillent, et il y a quand même un lien qui se crée entre eux, alors que parfois elle dans sa propre langue elle leur parle en fait assez mal.
Mais on comprend qu'elle est justement extrêmement heureuse d'avoir peut-être retrouvé une possible place où justement elle ne comprend pas les gens qui lui parlent. Elle a retrouvé un peu ce secret de la langue qui l'intéressait, qui était justement un rapport avec son vrai nom. Et on se dit, mais voilà, elle retrouve finalement ce qu'elle a toujours cherché.
Elle-même dit, je me sens enfin au milieu des miens. Et je crois que ça c'est une clé. Et en réalité, elle était tellement dans l'incertitude que ces toutes petites certitudes qu'elle trouve sur son nom lui suffisent. Et ça règle aussi cette question des origines dont on parle beaucoup. On peut trouver un moyen d'être chez soi ou un lieu à soi sans être sûr d'être dans sa propre famille. Mais quand on trouve des personnes qui vous accueillent, qui vous laissent là vivre et être comme vous le souhaitez, avec vos bizarreries, et vous sentir rangé, en fait, rangé à votre place. Elle dit comme une étrangère en son pays. Mais c'est le cas, et c'est là que va commencer aussi à s'apaiser son langage et sa manière d'être au monde. Et on voit bien que cette enfance qu'elle recherchait, elle la trouve d'une certaine manière en jouant avec eux, parce que comme ils ne se comprennent pas, ils se font des signes, il y a tout un tas de jeux, de mouvements un peu ludiques qui s'installent entre eux.
Elena a cette phrase, elle dit « Dans la nuit qui m'appelle, je m'aventure avec succès ». On voit bien qu'à la fois, elle est dans le noir, parce que bon, elle comprend pas très bien ce qui se passe autour d'elle, mais en même temps, ça représente quelque chose de positif pour elle.
Et oui, parce qu'au début du texte, on est plutôt sur l'échec qui va d'échec en déchéance. Je pense que elle peut l'affirmer à partir du moment où elle ressent cet apaisement, l'animal intérieur s'est calmé. Les pensées justement qui vraiment faisaient embouteillage dans sa tête se calment aussi, et elle a enfin effectivement trouvé sa place dans cette famille qui peut-être n'est pas la sienne, nous n'en savons rien. Et c'est pas une résolution avec un happy end, mais c'est trouver un moyen de vivre qui était quand même celui qu'elle cherchait, qui semblait impossible, c'est-à-dire retrouver une enfance. On ne retrouve pas une enfance, mais elle retrouve un sentiment de l'enfance et un sentiment d'une famille et d'un lieu à elle.
Claire Ferca, qu'est-ce que il faut passer par le voyage, la fuite, pour remettre de l'ordre dans une existence comme ça, cabossée ou un peu fracassée? Est-ce que c'est ce déplacement qui peut permettre ça?
Alors, je dirais que pour elle, oui, parce que c'est aussi toute l'énergie qu'on peut trouver. Je pense que l'immobilisme n'apporte pas grand-chose de bon, et que c'est la vie qu'on a tous à affronter, c'est-à-dire qu'on se bat contre des choses du passé, des traumatismes, des souffrances, des deuils, des personnes qu'on perd, et qu'on doit continuer à avancer. Et donc là-dessus, le fait de l'écrire, ce voyage, permettait d'affirmer une possibilité de continuer.
Mais est-ce que ça l'a été pour vous?
Est-ce que ça l'a été pour moi? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. En tout cas, pas dans ce voyage-là que j'ai fait.
C'est un voyage encore en cours, peut-être.
Voilà.
Merci beaucoup, Claire Fercac.
Merci à vous.
Votre roman, Une existence sans précédent, est paru aux éditions Vertical. Cet entretien littéraire était réalisé par Laurence Millet, avec Jean Guilhermège à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marsais qui m'a aidé pour la préparation. L'entretien littéraire est à réécouter et même podcaster sur le site de France Culture ou l'appli de Radio France.